Bonjour madame, bonjour monsieur, voici l'instant Pavlova, récit et petit plat, histoire à écouter et à déguster.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonjour Juju.
Eh bien, salut Pavlova et bon retour parmi nous,
dis donc. Oui, avec grand plaisir, grande joie de retrouver tout le monde. Alors, pour un retour, je savais pas trop. Je pense que je vais continuer un petit peu le voyage avec vous. C'est vous emmener dans un pays où tout est sauvage. Les couleurs sont plus vives, la vie est plus lente. Les hommes, les femmes, les enfants font leur vie au bord des fleuves. Dans les villes, dans les forêts, mais sur une terre rouge, sous la pluie qui tombe fort chaque nuit, le soleil qui sèche tout en quelques minutes, aujourd'hui, je vous emmène avec moi au fil du Maroni.
Ce jour-là, dans le monde ou dans le temps, il s'est passé quoi ?
Le 6 mai 1840, c'est la naissance du timbre-poste. Le timbre-poste né à Londres le 6 mai 1840, c'est une révolution qui va beaucoup faciliter le développement du courrier. Avant cette date, il était habituel que le port des lettres soit payé par le destinataire en fonction de la distance. Du moins ce qui concerne les courriers longue distance, c'est-à-dire de ville en ville. Un inventeur au cœur sensible, un jour de 1837, si l'on en croit une pieuse légende, Roland Hill, 42 ans, voit une jeune femme qui pleure à chaudes larmes après le passage du facteur. Elle lui explique qu'elle a dû refuser une lettre de son amoureux faute d'argent pour payer le port. Lui, qui a des entrées au gouvernement, rédige un mémorandum et le transmet au Premier ministre Lord Melbourne. Ce premier timbre-poste permet, pour un penny, d'envoyer une lettre d'un maximum 14 grammes. Les autres pays suivront ce modèle. Le premier timbre français sera émis le 1er janvier 1849.
Le thème ?
Le thème, oui, bien sûr, j'attendais la voix tant attendue. Le thème, alors aujourd'hui, ce sera la Guyane, parce que nous sommes de retour de Guyane. Nous sommes restés 3 belles et magnifiques semaines. Alors j'ai eu envie de vous emmener promener là-bas, toutes les saveurs. Alors il y en a beaucoup qui ne savent pas trop où situe la Guyane, comment ça se... Non, c'est pas une île, la Guyane, hein,
c'est bien sur un continent,
oui. Oui, oui, c'est situé dans le nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. C'est un département, région d'outre-mer. La Guyane est limitée au nord par la côte, qui dans son ensemble est plate et marécageuse, à l'est par le fleuve Oyapock, entre la Guyane et le Brésil, à l'ouest le Maroni, le fleuve Maroni, séparant la Guyane du Suriname. Au sud, la frontière est le Brésil, qui est matérialisée par la ligne de partage des eaux avec le bassin de l'Amazone. La Guyane possède 300 km de côte, 520 km de frontière avec le Suriname et 700 km de frontière avec le Brésil. Si je vous donne ces informations, c'est parce que là-bas, ça passe d'une frontière à l'autre sans vraiment les contrôles. Donc il y en a plein de Surinaméens et de Brésiliens, des personnes qui n'ont vraiment pas grand-chose et qui essayent d'entrer en France, parce que là-bas, c'est la France. Donc avec la France, il y a toutes les aides, il y a toutes les le fait que si on soit pas... On peut pas être tué au coin de la rue comme ça peut être au Suriname ou dans des bas quartiers du Brésil. Il y a quand même une autre vie qui peut être espérée.
Ah ouais.
La Guyane, par contre, a un taux de pauvreté par rapport au seuil de pauvreté de l'Hexagone de 61,2%. C'est vrai que c'est un pays pauvre. Alors, même si il y a des efforts, s'il y a tout, mais il y a tellement de personnes qui arrivent. Et parfois, quand on traverse le pays, quand on voit bah, ça fait mal au cœur, quoi. Surtout les personnes qui arrivent sont, avant qu'elles puissent trouver un endroit où se mettre, c'est un peu, c'est compliqué. Et la Guyane est le seul territoire continental de l'Union européenne en Amérique du Sud.
Les dictons de Pavlova.
Un dicton proverbe créole guyanais, donc je ne vous le dirai pas en créole parce que j'ai essayé mais j'arrive pas à le dire, mais c'est l'eau n'a pas de bras mais elle emporte tout. Et ça c'est bien vrai. Un proverbe du voyageur qui traverse la Guyane. En Guyane, ce n'est pas toi qui apprends le pays, c'est le pays qui t'apprend à respirer.
Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras quedito me acompaña tu voz. La 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 la. Realmente es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té. Un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal. Dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La 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 la.
Eh bien, on va entendre la superbe voix de Laura Itandewi avec le titre que vous avez reconnu, Yo no necesito de mucho.
Voilà, on part pour un voyage tout en douceur. On se met au pied des grandes feuilles de palmier et on se cale dans un fauteuil et on regarde ce qui se passe autour de toi.
Les récits de Madame Pavlova.
Carnet de Guyane, je vous ai préparé le journal d'une voyageuse. Ce n'est pas moi, mais ça m'a quand même bien inspiré, tout ce qu'on a rencontré. Dans mon histoire, elle dit « Je m'appelle Anna. Je ne suis pas une exploratrice. Je n'ai ni boussole, ni machette, ni carnet rempli de cartes. Mais je pars en Guyane. Et là-bas, j'ai appris à marcher autrement, à respirer autrement et peut-être à vivre autrement. » Jour 1. On ne descend plus de l'avion comme avant, par des escaliers qui arrivent sur le tarmac comme dans les films, sauf pour les tout petits avions et les avions privés. Non, on sort de l'avion, on passe par un tunnel, tout est lisse, climatisé, presque neutre, comme si on pouvait encore croire que rien n'a changé. On suit les autres, les couloirs, les passages où l'on glisse le passeport. Les bagages arrivent, les gestes sont connus. Et on va vers la sortie. La porte s'ouvre sur l'extérieur. Waouh ! La chaleur ne monte pas. Elle tombe d'un coup. Une chaleur humide, dense. Elle s'accroche à la peau immédiatement. Elle s'installe sans demande de permission. Je m'arrête. Juste une seconde. Mon corps respire déjà autrement. Ne pas se presser. Ici, ça ne servirait à rien. Le taxi arrive. Je monte et le paysage commence. Des palmiers, des bananiers, des manguiers lourds de fruits, des lianes accrochées partout, des pylônes mangés par la végétation comme si tout ce que l'homme construit était déjà en train de disparaître. Les maisons créoles apparaissent, couleurs franches, bleu, jaune, vert, rien n'est timide. J'aurais bien envie de m'arrêter tout le temps, de prendre des photos, garder des traces. Mais le taxi avance, et moi avec. On arrive à Cayenne, l'hôtel est là. J'entre, le froid me saisit, trop fort, trop sec. Mon corps ne comprend plus, dehors je collais, dedans je frissonne. La chambre est simple, je pose le sac, je reste debout. Un peu vide, le décalage horaire. Je ne sais plus vraiment où je suis, ni quand. J'ouvre la fenêtre, l'air redevient immédiatement chaud et humide. Je quitte la chambre, je redescends. Au bar, à l'ombre. Je m'assois et sans réfléchir, je montre ce que les personnes d'à côté boivent et je commande. Ça. Ça, c'est un jus de maracuja. Un jus de fruits de la passion. Je ne connaissais pas ce jus frais. Il est dans un grand verre avec beaucoup de glaçons et une paille jaune dense, un peu orangée. Je goûte, je bois. C'est acide, mais pas trop. Et puis sucré, mais pas trop. Et surtout, ça réveille et le corps se remet en route doucement. Ce sera mon jus favori. Tous les jours, je viendrai boire mon jus frais de maracuja.
C'est l'heure des recettes de Pavlova. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo.
Nous allons rester autour de maracuja. Je vous propose la galette créole, maracuja et ananas. Elle m'a été confiée par une animatrice quand nous travaillions avec des enfants dans un centre aéré à Kourou. Alors, pour la pâte, il vous faudra 450 g de farine, 120 g de sucre de canne, 250 g de beurre demi-sel en pommade, une fève ou un haricot rouge en guise de fève, 60 g de sucre de canne, un pot de confiture. Non, les 60 g de sucre de canne, elle m'a dit, là, c'est pas la peine. Si on veut faire un confit, mais moi, je me suis dit que pour vous, c'était mieux de prendre directement un pot de confiture d'ananas. Parce que les ananas qu'on trouve ici, ils n'ont pas tout le sucre, ils n'ont pas tout le soleil. Alors, le faire cuire en confit, il n'y a que l'acide qui va ressortir. Donc, après la fève, un pot de confiture d'ananas, un pot de gelée de maracuja. Préparation de la pâte, préchauffer le four à 180 degrés. Dans un saladier, on mélange la farine, le sucre, un peu de levure chimique. Vous ajoutez la cannelle, du citron vert râpé. Vous mélangez, faites un puits, cassez les œufs. Elle ne m'a pas mis les œufs dans la recette. Hein. Donc, il faut rajouter 2 œufs. Le beurre coupé en petits morceaux, de la vanille. Vous travaillez sans pétrir afin d'obtenir une pâte bien homogène. Vous formez une boule. Pour le montage. Bon, la pâte, il faut la laisser reposer un peu. Toutes les pâtes dans le monde, c'est pareil. Vous beurrez ou vous huilez un moule à tarte de 30 cm de diamètre. Vous séparez la pâte en 2 parties égales. Vous foncez le moule avec la première moitié de la pâte. Et là, vous étalez la gelée de fruits. Confiture d'ananas, une petite couche fine. Et par-dessus, gelée de maracuja. Ou un seul parfum, mais les deux se mélangent très très bien. En laissant 2 cm de pâte tout autour, vous placez la fève ou pas, si vous ne voulez pas la faire pour les rois, si vous voulez la faire cet été, par exemple. Vous reposez la deuxième pâte bien étalée sur la confiture. Vous mettez bien pour que les bords soient collants. Vous badigeonnez ou pas la galette avec un jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Vous faites des croisillons. Elle a bien insisté sur les croisillons, la dame, parce que pour elle, une jolie galette, elle a plein de croisillons. Et chaque famille, apparemment, a son style de croisillon.
Ah ouais.
Il y en a c'est des traits, il y en a c'est en losange, il y en a c'est en S ou en vague. Voilà, on reconnaît les galettes ou leurs croisillons. Vous enfournez pendant 25 à 30 minutes et elle dit au mieux déguster la galette quand elle est tiède ou à température ambiante, mais surtout ne pas la mettre au frais.
Et on se régale.
Sweet Lord,
hallelujah,
oh my Lord,
hallelujah. et vous aurez peut-être reconnu la superbe voix de Damian Marley qui nous chantait une reprise de My Sweet Lord.
Oui, j'ai pas résisté à mettre du reggae parce que c'est vraiment une musique qu'on entend beaucoup en Guyane, dans des villages où la route est de terre rouge. Il y a une épicerie qui fait tout, on peut tout acheter dans ces épiceries, du coupe-coupe à la gelée de maracuja, au lait de coco et tout. Et dans ce village-là, dans ce coin, on entend du reggae dès qu'on arrive là, dès qu'on se pose, dès qu'on traverse. C'est assez magique. On va continuer ?
Avec plaisir.
Les récits de Madame Pavlova.
Nous retrouvons le journal de Anna au jour 5. Elle dit « Je me suis adaptée au décalage horaire. 6 heures, ça compte. Ce matin, mon ami me dit « Viens, je vais te montrer le cacao. Moi, je pense connaître le chocolat, le goût, les carrés qu'on casse, la poudre, les parfums. Bon, maintenant, on en fait un peu à tous les parfums. Mais ici, ce n'est pas ça. Déjà, on roule longtemps. On quitte la route et on suit une piste de terre rouge. On marche un bon moment dans la forêt, au bord du fleuve qui déborde partout. La terre est humide, l'air est lourd. Et puis, ils me montrent. Et je les vois accrochés directement au tronc. Les cabosses, jaunes, rouges, étranges. Qu'entend-il cabosser ? Ça vient certainement de là. Les cabosses, elles sont grosses comme une noix de coco, mais moins rondes, plus oblongues. C'est un fruit étrange. Rien à voir avec ce que j'imaginais. Il en coupe une. Le geste est précis. Il l'ouvre en deux à l'intérieur. Des graines blanches, enveloppées, glissantes. Il me tend une moitié de cabosse et me dit « Goûte ». Je goûte. Ce n'est pas du chocolat, mais c'est fruité, acidulé, presque floral, c'est délicieux. Je reste surprise, comme si tout ce que je croyais connaître venait de changer. Le cacao, il me dit, ça prend du temps. Et il parle fermentation, séchage, feu de bois pour le griller, le soleil, la patience. Ici, rien ne se précipite. Je regarde mes mains, un peu collantes, elles sentent la terre, le fruit, déjà la transformation et la fermentation. Jour 10. C'est jour de marché à Cayenne. Ça parle fort, ça rit, ça vit fort, enfin comme dans tous les marchés. Mais là, les étals débordent. Les fruits entassés, coupés, ils sont en petites montagnes qui sont bien présentées. Certains autres sont comme ça, mais dans des caisses. Il y en a des petits légumes, des petits piments qui sont sachés tout près, des assiettes avec des mangues, des épices, des racines, puis des couleurs partout. Les senteurs. Je marche lentement, je regarde tout. Je demande le nom des légumes, les fruits inconnus. Et puis je vois, posés sur une table, des bâtons. Plus gros que des cigares, marron foncé, bien régulier, bien enveloppé dans un film plastique très fin. Pas vraiment attirant au premier regard, alors je demande et la femme me répond « c'est du chocolat ». Je suis surprise, elle sourit « le chocolat ici, le chocolat pays ». Et elle m'explique « le cacao transformé, façonné en bâton, on le râpe ». On le fait fondre, on en fait une boisson, on ajoute des épices, on peut émettre cannelle. Et pas besoin de lait, juste à l'eau. J'en prends, sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour amener un morceau de là-bas, quelque chose de vrai. Le bâton est lourd dans la main, dense, rien à voir avec les tablettes. Je le glisse dans mon sac, comme un trésor discret, un trésor secret.
C'est l'heure des recettes de Pavlova. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo.
Je ne résiste pas à vous donner la recette de la crème au chocolat. De chocolat pays, il vous faudra 500 ml de lait de coco. Ça, on en trouve ici. Pas
facile.
Un problème. Hein.
Oui.
4 cuillères à soupe de bâton, cacao râpé, cacao d'Amazonie de préférence. Ça sera peut-être plus compliqué. Alors, je vais vous proposer à la place de trouver... du cacao, du chocolat en poudre fort en goût. parce que les bâtons de cacao, là, de chocolat, ne sont pas sucrés.
Ouais, c'est très amer, comme le Van Houten, c'est ça ?
Oui, mais c'est beaucoup plus parfumé.
D'accord.
On dirait que c'est de la vieille poudre qui a pris le papier. Pourtant, on dit que c'est un bon, hein, mais à côté du cacao râpé.
On n'a
mais...
pas beaucoup de références, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais sinon, une excellente tablette de chocolat noir à râper aussi, avec très peu de sucre, à 80-70%.
99 même. Mmh.
Trois feuilles de gélatine au préalable trempées dans de l'eau froide. Vous versez le lait de coco dans une casserole et vous faites chauffer. Vous ajoutez le sucre de canne, ah ça c'est à votre goût, et le chocolat. Vous essorez la gélatine, vous versez dans le lait de coco. Il faut que ça soit bien chaud pour que la gélatine puisse fondre. Vous mélangez bien. Vous versez l'appareil dans des verrines ou dans des jolis verres. Vous laissez refroidir et puis vous mettez au frais pendant au moins 3 heures. L'idéal c'est toute la nuit. Vous pouvez accompagner de 6 pains. C'est une galette guyanaise. Le cispa est cuit sur une platine, une plaque chauffée. C'est une douceur typiquement guyanaise. Le cispa se fabrique encore aujourd'hui avec la farine de manioc à Irakubo et à Sinamari, des communes de Guyane. Je vous ai ajouté cette petite galette juste pour entendre résonner ces mots que vous n'avez certainement pas l'habitude d'entendre souvent.
Les récits de Madame Pavlova.
Nous retrouvons notre charmante Anna sur le jour 7. Et on peut lire dans son journal « Mon ami me dit, viens, je vais te montrer le jardin. » Moi, je pense à un jardin, un peu organisé, un peu tenu comme en hexagone. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, tout pousse, vite, trop vite presque. On entre et je ne sais plus où regarder. Les bananiers d'abord, les feuilles larges, parfois déchirées, et les régimes de bananes bien accrochés. Tout est dense, serré, comme si les plantes se tenaient entre elles. Elle coupe une poignée de feuilles. Ça, elle me dit, c'est de l'oseille pays. Les feuilles sont bonnes en cuisine et en tisane. Les fleurs font une belle boisson rouge. Plus loin, elle me montre une autre plante, faux patchouli. Je froisse la feuille. L'odeur monte immédiatement, forte, presque camphrée. Elle dit « on en met dans les placards, ça éloigne les cafards ». Moi, j'en glisse une poignée dans mon sac, même si dans mon sac, il n'y a pas souvent des cafards. Et puis, elle s'arrête. Là, c'est l'atumo. Je regarde, une plante simple en premier regard, des longues feuilles et des fleurs roses, blanches, presque nacrées, en petites grappes. Et elle me dit « c'est bon pour tout ». À tous les mots, à tout mot. Eux, ils écrivent A-T-O-U-M-O. Elle dit ça comme une évidence. Fièvre, maux de ventre, grippe, fatigue, tu fais une tisane. Elle me donne 3 grandes feuilles dures. Tu fais sécher, tu coupes en morceaux et tu gardes. Je ne discute pas. J'accepte volontiers ce cadeau. On continue à marcher. Ce jardin, ce n'est pas un jardin. C'est une réserve, une pharmacie, une cuisine, une mémoire. De l'autre côté du jardin, il y a sa maison, simple, ouverte. Il n'y a pas de vitres, juste des fenêtres à claire-voie. Toutes les maisons sont comme ça, sans vitres, sans volets. Pour laisser passer l'air, l'air circule, toujours. Il n'y a pas de cheminée, pas de radiateur, rien pour se chauffer, juste la chaleur. Du soleil et parfois une climatisation. La maison respire avec le dehors. Il n'y a pas vraiment de séparation entre dedans et dehors. La grande terrasse avec le hamac est dedans-dehors. Le toit long protège la pluie ou de la chaleur. Les plantes grimpent sur le long des poteaux et en soirée parfument l'air. Je m'assois un moment, j'écoute les feuilles, le vent, les insectes. Tout est là et rien n'est fermé.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quim, 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 quim. Quim, 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 quim. Quim, 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 quim. O pato vinha cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quim, quim, quim. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quim, 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 quim. Quim, 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 quim. Quim, 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 quim. Quim, 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 quim. Quim.
Eh bien, on vient de s'écouter Joao Gilberto, je pense qu'on prononce ça comme ça, avec le titre O Pato.
Mmh.
On continue.
C'est l'heure des recettes de Pavlova. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo.
Quand vous êtes bien installé sur la terrasse, à l'abri de la pluie ou de la chaleur, vous êtes bien dans votre fauteuil ou votre hamac, comme en Guyane, il ne vous manque plus que la boisson. Alors voici la boisson infusion d'oseille pays, c'est la fleur d'hibiscus, bissap en wolof sénégalais, agua de Jamaïca au Mexique, groseille pays, oseille aux Antilles en Guyane, thé rose, thé de l'Empire, boisson des pharaons, etc. sont autant de noms donnés à cette fleur. Cette fleur d'hibiscus, originaire de l'Inde et d'Afrique occidentale, dont généralement seul le calice est consommé. Vous trouverez des fleurs séchées d'hibiscus dans de nombreux magasins exotiques, plus souvent sous le nom de bissap et non pas d'oseille pays. C'est une plante médicinale. Elle a plein de bienfaits. Elle est antibactérienne, elle décontracte, elle soigne les troubles digestifs, la fièvre, l'état grippal, les douleurs articulaires et j'en passe. Elle aide aussi à baisser le taux de sucre dans le sang. Pour faire votre infusion, 70 g de fleurs d'oseille pays séchées, 2 litres d'eau. Vous rincez les fleurs à l'eau froide, vous le mettez de côté. Vous portez à ébullition dans une casserole l'eau. Il faut éteindre le feu et verser les fleurs. Vous mélangez, vous laissez infuser à couvert jusqu'à refroidissement complet. Puis vous passez l'infusion dans une passoire, vous sucrez à votre convenance et c'est prêt. Nous, chez nous, Zaïda, elle fait beaucoup, mais elle ne le sucre pas. Et quand on l'a goûté là-bas, elle était sucrée. Alors Pepo a dit « Ah, c'est bon !» Donc maintenant, il lui dit de rajouter un petit peu de sucre. Et puis avec cette infusion, vous pouvez faire la sangria créole. Toujours à l'oseille pays ou bissap, avec ou sans alcool, bien évidemment. Elle se prépare la veille, voire 3 jours à l'avance, afin que les arômes puissent bien se développer. En Espagne, il y a une quantité de déclinaisons, mais là, c'est une sangria créole. Vous remplacez le vin par le rhum. Pour obtenir la couleur sang, vous utilisez les fleurs de l'oseille pays. 50 g de fleurs, 1,5 litre d'eau, de l'ananas coupé en petits dés avec des oranges ou des mangues, en fait ce que vous avez, mais l'ananas ça fonctionne très très bien. L'orange ça fait vraiment penser à la sangria d'Espagne. Un maracuja, donc la pulpe, hein, c'est comme des petites balles de ping-pong qui sont marrons. Si elles sont fripées, elles sont bonnes, très bonnes, elles sont encore plus parfumées. Il ne faut pas les prendre trop fraîches, sinon elles n'ont pas de goût. Vous coupez en deux, vous prenez avec une cuillère les graines et c'est ça, cette pulpe du maracuja qui est très, très parfumée, au fruit de la passion. 160 g de sucre de canne, plus ou moins à votre convenance. Une cuillère à café de cannelle en poudre, 2 cuillères à café de vanille, une cuillère à café de zeste de citron vert et 500 ml d'eau gazeuse ou de limonade. Pour l'infusion, vous l'avez déjà faite, vous ne vous rincez les fleurs, vous portez ébullition, donc ça, je ne vous parle, vous le répétez. Et ensuite, quand tout est prêt, vous ajoutez le rhum, la vanille, enfin toutes les épices, et vous mélangez. Vous ajoutez les quartiers de fruits. Il faut garder un petit peu de peau. Si vous mettez de l'orange, pour que le zeste parfume davantage, les dés d'ananas, les dés de mangue, la pulpe de maracuja, vous goûtez, vous rectifiez si besoin, et vous réservez la sangria au frais toute une nuit ou les 3 jours. Et quand vous servez, vous ajoutez de l'eau gazeuse ou de la limonade avec beaucoup de glaçons. C'est-à-dire que même s'il y a du rhum, finalement, c'est délié.
Sitting by the ocean, me how she feels so sad. Sitting by the ocean, me how she feels so sad. Don't got the money to take me back to Trinidad. Fine Calypso woman, she cooked me shrimp and rice. Fine Calypso woman, she cooked me shrimp and rice. These Yankee hot dogs don't treat me stomach very nice. In Trinidad, $1 buy papaya juice, banana pie, 6 coconut, 1 female goat, and plenty fish to fill the boat. 1 bushel bread, 1 barrel of wine, and all the town she comes to dine. But here is bad, $1 buy cup of coffee, ham on rye. Me throat she sick from necktie, me feet she hurt from shoes, me pocket full of empty, I got Calypso blues. These Yankee girls give me big scare. Is black the root, is blonde the hair? Her eyelash false, her face is paint, and pads are where the girl she ain't. She jitterbugs when she should waltz. I even think her name is false. But Calypso girl is good a lot, is what you see, is what she got. Sitting by the ocean, me how she feels so sad. Don't got the money to take me back to Trinidad. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow.
Et on vient d'écouter Calypso Blues par Nat King Cole, superbe artiste.
Les récits de Madame Pavlova.
Et nous continuons avec le journal de Anna, jeune femme en voyage en Guyane, jour 16. On m'emmène au bord du fleuve. La terre devient plus humide, le chemin s'efface un peu, et puis le Maroni, large, lent en apparence, mais vivant. Des pirogues passent, des enfants jouent sur la berge, des hommes parlent, rien n'est mis en scène, tout est là, simple. On me dit, ici nous sommes chez les Bushinengue, les hommes de la forêt. Je regarde autrement, les gestes, les visages, les silences. On me raconte que ces peuples viennent de loin, d'Afrique, arrachés, emmenés ici, esclaves. Les Bushinengués, également appelés marrons ou noirs marrons, représentent donc l'ensemble des peuples descendants d'esclaves africains emmenés dans les Guyanes pour travailler dans les plantations. Et un jour, ils ont fui. Ils ont quitté ces plantations, ils ont traversé la forêt, ils ont résisté. Et ici, au bord du fleuve, ils ont construit autre chose, une vie libre. Les noms arrivent, Saramaka, Matawai, Quinti, Paramaka, Aluku. Je ne retiens pas tout, mais je sens que ce fleuve ne transporte pas que de l'eau et transporte des histoires, des fuites, des luttes, des vies entières. Les maisons sont là en bois, parfois colorées ouvertes. Le linge sèche, les enfants rient et la vie continue. Je reste un peu en retrait, j'observe. Et je comprends vraiment que je suis de passage. Et ça me suffit. Ici, tout est lié, la forêt, le fleuve, les hommes. Et l'histoire n'est pas derrière. Elle est là, dans chacun de leurs gestes.
C'est l'heure des recettes de Pavlova. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo.
Et si jamais vous n'avez pas le temps d'attraper une feuille, un carnet, parce que je dis assez vite, c'est facile, hein, il faut demander...
À Radio Dynamo, vous nous contactez au téléphone 09 70 66 92 95 ou bien un petit mail, c'est quand même mieux, contact@radiodynamo.org. On se fera un plaisir de vous donner toutes les recettes de Pavlova.
Voilà, toutes mes recettes, elles sont écrites, elles sont prêtes à être envoyées vers vous. Voilà, il y a certaines personnes qui m'en ont demandé déjà.
Et bien nous
ça
aussi.
Ça me fait plaisir. Donc je vous propose une crème de tapioca au beurre de cacahuète. C'est une recette d'inspiration Bushinengué. En Guyane, les Bushinengué sont surtout présents sur la bande littorale tout le long du Maroni, qui est la frontière avec le Suriname. C'est-à-dire que si on est au bord du fleuve, tout au bout de la Guyane, là, en face, c'est le Suriname. Donc un tour de pirogue. Alors n'imaginez pas les pirogues avec les rames. Les pirogues, elles sont à moteur quand même. C'est des pirogues souvent en métal et qui sont bien costaudes. Et des fois, ils se mettent à quatre grandes pirogues pour transporter des camions, des voitures, enfin tout sur le fleuve. Parce qu'il n'y a pas vraiment de route pour aller jusqu'au bout comme ça. Donc, pour ma crème de tapioca, je vous propose, il faut, avec de l'eau, du sucre, du lait de coco, ça la rend plus onctueuse. Donc, 60 grammes de tapioca, 800 ml de lait végétal, une cuillerée à café de vanille, un peu de cannelle, si vous aimez ça, toujours à râper un zeste de citron vert, et deux cuillerées à soupe de beurre de cacahuète. Donc, dans une casserole, vous mettez l'eau, le lait à chauffer. Si vous utilisez du lait de coco, ne faites pas entièrement lait de coco. Ce sera trop riche. Il faut de l'eau et un peu de lait de coco, juste pour donner une petite onctuosité. Vous mettez le sucre, les épices et le beurre de cacahuète. Vous mélangez avec un fouet pour bien dissoudre. Vous versez le tapioca en pluie. Là, vous mélangez régulièrement pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la préparation s'épaississe et que le tapioca soit cuit. Il devient alors translucide. Vous transvasez la crème dans des verrines, des ramequins, des bols. Vous laissez refroidir avant de déguster. Et surtout, ne pas mettre le tapioca au réfrigérateur, sinon ce sera encore beaucoup plus collant. Je vous propose une autre recette qui va mélanger cette fois le fameux chocolat et le beurre de cacahuète. C'est ce qu'ils appellent là-bas le chocolat de communion. Ça se faisait dans les grandes occasions et maintenant on peut en boire beaucoup plus. On dirait que de notre époque, il n'y a plus rien qui est réservé aux grandes occasions. On mange de tout, tout le temps. Allez, est-ce que c'est bien ?
Je sais pas, mais quand c'est bon.
Ouais, c'est ça. Il vous faudra, parce qu'il en faut beaucoup, parce que c'est vraiment gourmand, 2 litres de lait demi-écrémé. Demi-écrémé, c'est du lait de vache, de chèvre ou du lait végétal, c'est comme votre choix. Un bâton de cannelle, un citron vert, enfin le zeste bien râpé, de sucre ou du lait concentré sucré. Il y a beaucoup aussi, ils travaillent beaucoup avec le lait concentré sucré. C'est plus facile parce que le sucre, en Guyane, il est conservé dans le réfrigérateur. Sinon, il y a trop de bêtes.
Ah,
et
ouais.
Par l'humidité aussi, il devient tout de suite du sirop. Donc, il est mis dans un bocal avec les caoutchoucs, là. Presque tout est gardé au réfrigérateur. Donc, le lait concentré en tube ou en petit pot, ça va. C'est vraiment très, très utilisé. Et du chocolat en morceaux, du chocolat en poudre, bien sûr, si vous pouvez avoir du chocolat d'Amazonie, c'est encore mieux. Non, mais là, je vous blague. Et 2 cuillerées à soupe de maïzena. Et 4 grosses cuillerées à soupe de beurre de cacahuète, crunchy ou smooth, c'est à votre goût. Dans une casserole, vous mélangez le lait concentré, sucré ou le sucre, les épices, vous faites chauffer à feu moyen. Une fois le lait chaud, vous ajoutez le beurre de cacahuète et le chocolat. À l'aide d'un fouet, vous mélangez régulièrement la préparation. Une fois que tout ça, cacahuète, beurre de cacahuète et chocolat sont fondus, vous ajoutez la maïzena, préalablement dilué dans un tout petit peu d'eau. Vous mélangez jusqu'à tout ce que ça s'épaississe. Et puis une fois que le chocolat est prêt, ben, on éteint le feu, on laisse refroidir et ça se déguste tiède avec du pain au beurre. C'est un pain qui est beaucoup tartiné de beurre.
Les récits de Madame Pavlova.
Le jour 20, sur le journal de Anna, elle dit « Je suis arrivée ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni. Ici, tout semble calme, trop calme. Les maisons créoles regardent le fleuve. Le Maroni coule, lent, large, indifférent peut-être. Et pourtant, j'ai senti tout de suite que quelque chose restait. Je marche, et sous mes pas, la terre est rouge. Les arbres sont immenses. Et au milieu de cette beauté, le bagne. Je passe la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ralenti. Les murs sont là, épais, silencieux. Ils ont tout vu. J'ose. Je pose la main sur une pierre. Elle est chaude. Et soudain, j'imagine les hommes, leurs pas, leur souffle retenu. On dit que des milliers d'hommes sont passés là. Des voleurs, des révoltés, des oubliés, mais des femmes aussi, envoyées loin, très loin, pour disparaître. Certains n'ont jamais quitté la Guyane, ni vivants, ni morts. Et moi, je suis là, libre, à marcher sur leurs traces. Je suis revenue au bord du fleuve en fin de journée. La lumière avait changé, plus douce, presque dorée, et puis je l'ai vue. Un homme assis sur un vieux banc de bois silencieux, comme s'il faisait partie du paysage, à regarder en face de lui le bateau devenu île où la végétation a poussé au milieu du fleuve. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assise à côté de lui, sans parler, juste à regarder. Il a fini par dire doucement « Vous venez voir le bagne ?» J'ai hoché la tête. Lui, il regardait le fleuve et il a parlé. Le bagne de Guyane, ça commence en 1852. On envoie ici des condamnés de métropole, voleurs, récidivistes, mais aussi des hommes pour des fêtes mineures. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est la porte d'entrée. Tous les transportés arrivaient ici avant d'être répartis dans les camps. À partir de là, ils perdaient leur vie d'avant. Quand un homme avait fait sa peine, il ne rentrait pas forcément en France. S'il avait été condamné à 8 ans, il devait rester en Guyane le même temps après sa libération, et souvent définitivement. C'est ça qu'on appelait la double peine. Les journées commençaient très tôt. Travaux forcés, routes, bâtiments, défrichage, la chaleur, l'humidité. Les maladies faisaient le reste. Paludisme, dysenterie. Beaucoup mouraient. La nourriture était insuffisante et les punitions. Certains étaient enchaînés, d'autres envoyés dans des camps encore plus durs, en forêt. Beaucoup ont essayé de fuir, mais la Guyane, ce n'est pas un endroit facile pour s'échapper. La forêt est dense, dangereuse, le fleuve est large, la mer encore pire. peu y arrivaient. Ce n'était pas seulement une prison, c'était un système pour éloigner, exploiter et user les hommes. Certains ont survécu, mais dans quel état ? Le bagne a été officiellement fermé en 1938. Mais les derniers détenus ne sont rentrés qu'après la guerre. Beaucoup sont restés, sans moyen de repartir. Anna continue son récit. Elle écrit « Je ne sais pas quoi répondre. » Alors j'ai regardé le fleuve. Je regardais les bâtiments derrière moi. Rien ne criait. Et pourtant, tout était là.
C'est fini, pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Pas de lettres de mon ami, ce n'est peut-être qu'un oubli. C'est fini. Il y en a qui s'aiment jusqu'au martyr. Où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté. J'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon, 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 bon. Cayenne, bon, 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 bon. J'ai compris. Cayenne, bon, 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 bon. C'est fini, Cayenne. Tant que j'attends ma remise de peine, y'a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Allez les mecs, au boulot. Allez les mecs, au boulot.
C'était Jacques Higelin avec le titre Cayenne, c'est fini.
C'est l'heure des recettes de Pavlova. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo.
Alors, pour accompagner votre chocolat, la pâte de cacahuète, je vous donne le pain au beurre qui est extrêmement moelleux et d'une douceur incroyable pour vous faire le petit repas voyage. Vous pouvez déjà vous installer. 700 g de farine avec de la levure de boulangerie rapide. 400 g de patates douces, orange ou blanche, cuites à la vapeur ou à l'eau et réduites en purée. Une cuillère à soupe de sucre de canne, une cuillère à café de sel, 200 ml de lait concentré non sucré tiède. Dans un saladier, vous mélangez la farine et la levure instantanée. Vous faites un puits, vous ajoutez la purée de patates douces et le beurre réduit. Elle ne m'a pas dit combien elle avait mis de beurre, d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit qu'il faut pas mal de beurre.
Oh, la coquine.
Et oui, elle ne m'a pas mis la recette. Mais dans beaucoup de recettes, elles m'ont donné, elles ont fait les coquines. Hein. Donc un bon morceau de beurre, on va dire 100 grammes, je sais pas, je leur demanderai, je vous donnerai la précision. Mais au moins bah, avec 700 grammes de farine et de la pâte à douce, il faut au moins 150 grammes de beurre hein, pour que ça s'appelle un pain au beurre. Des œufs, c'est pareil, des œufs, il en faut au moins 4. Et le sucre, le sel. Vous ajoutez le lait concentré non sucré au fur et à mesure et vous mélangez pour obtenir une boule. Sur le plan de travail, vous pétrissez la pâte en la fraisant sous la paume de la main pendant 10 minutes. Alors, quand même, si vous avez les appareils maintenant, vous pouvez le faire avec le crochet, là, comme la pâte à pain. Je pense que ça fonctionne bien. Ne pas rajouter de farine, même si ça colle, ça devrait petit à petit se mettre en boule. Et là, vous laissez dans un saladier, vous laissez lever la pâte une heure à température ambiante, dans un endroit sec ou dans un four, vraiment à toute petite basse température, à 40 degrés si jamais il fait frais chez vous. Voilà, et puis la pâte lève tranquillement, vous dégazez, vous repétrissez légèrement, mais juste pour enlever l'air, vous préchauffez le four à 180 degrés, et là vous mettez un peu de farine. Sur un plateau, vous façonnez le pain à votre convenance, vous disposez sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé, vous badigeonnez la pâte de jaune d'œuf à l'aide du pinceau et vous enfournez 40 minutes si vous faites un seul pain, 30 minutes si vous en faites deux. Vérifiez la cuisson de temps en temps, le pain au beurre doit être bien doré. Laissez refroidir avant de déguster. Avec un bon chocolat créole.
Dans la nature, autour de soi, il se passe quoi chez Madame Pavlova?
Dernière note de Anna avant le départ. Elle écrit « Je suis là, face à la mer. Le sable colle un peu sous les pieds. L'air est lourd, toujours. La peau ne sèche pas. Même maintenant, je respire lentement. Devant moi, l'eau est trouble, pas bleue, pas claire, vivante. À côté, la mangrove bouge. Ça ne se voit presque pas, mais ça travaille. Ça avance, ça recule. Derrière, les maisons créoles, colorées, posées comme des jouets au milieu de la forêt. J'ai chaud, mais ça ne me gêne plus. Au début, je n'en pouvais pas de cette chaleur, la sueur, être mouillée tout le temps. Maintenant, c'est devenu normal. Mon corps a arrêté de lutter. Je regarde, je sens l'air sur ma peau. Je suis bien, juste là. Je reste encore un peu, sans bouger, et je me dis presque sans y penser. Je pourrais rester. Et puis ça passe.
Au sol vive sans amour. Yo no vivo sin chever. Que llega a amanecer.
The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The full moon so beautiful, but no match for your smiling face. The sun lives without a dream, and I only live for you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If the tide is rising high, and you arrive, then my dream is true.
The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The moon so bright and full, but no match to your smiling face.
Et on écoute lentement s'éteindre Roseau, un titre de Clara Aude Loua et Aloé Black.
Voici quelques conseils de Madame Pavlova.
Et pour terminer, un petit conseil, regarde, vraiment, pas seulement les ailleurs, pas seulement ce qui est loin, exotique, nouveau. Regarde ton pas de porte, le bord de ta fenêtre, ton jardin, même petit, la lumière qui change, les détails que tu ne vois plus. Regarde celui ou celle que tu aimes, comme si c'était la première fois. Le visage, les gestes, la présence. La vie va vite, trop vite. Pose-toi, regarde. Le monde est là, partout. Et n'attends que toi. À bientôt. Merci, Juju.
À bientôt, Pavlova.
Vous venez d'écouter l'instant Pavlova, récit et petit plat.
À vos fourneaux.